CFM, le mag.
Bonjour à tous, écologie et économie, des fois on oppose les deux. Alors je vais pas dire que j'ai trouvé la formule secrète, mais ces deux thématiques sont au menu du MAG aujourd'hui. On va s'intéresser au Startup Challenge, un appel à projet lancé par Rhodes Agglo et la CCI de Rhodes. Et puis pour commencer, on va prendre la direction du sud du département à Saint-Victor et Mellevieux, exactement où un collectif lutte depuis plusieurs années contre l'installation d'éoliennes et surtout la construction d'un gros transformateur électrique. C'est juste après The Red Goes Black sur CFM Rhodes 107.9. CFM Le Mag, on commence avec la Massade, le collectif de Saint-Victor et Mellevieux dans le sud de l'Aveyron, qui est sur le point de recevoir des avis d'expropriation sur des terrains destinés à recevoir un gros transformateur électrique. C'est sans doute l'un des derniers épisodes d'un combat lancé il y a 4 ans. Nelly, membre du collectif.
Pour l'instant, il n'y a encore personne qui y habite de manière permanente. Par contre, je suis une voisine, oui, j'habite une commune limitrophe en bordure de Tarn, qui a la chance d'être protégée des éoliennes industrielles parce qu'elle est sur un couloir aérien. Mais je suis sensible, en fait, à tous mes camarades, à tous les habitants qu'il y a à côté de chez moi, qu'il y a dans le Tarn, qu'il y a dans l'Hérault, qui sont en train de se prendre des centaines et des centaines d'éoliennes industrielles. Voilà.
Le collectif La Massade, ça fait plusieurs années maintenant qu'il lutte contre l'annonce de la construction de ce gros transformateur électrique. Vous avez, dans un premier temps, vous me rectifiez si je dis des bêtises, acheté des terrains.
Non,
c'est pas exactement ça.
Vas-y. Alors, à l'origine, pour remonter quand même par rapport à la contestation éolienne, on reviendra peut-être dessus, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à contester l'ensemble des projets d'éoliennes industrielles qui avaient tout autour de chez nous et bien dans les alentours agrandis. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve le point névralgique de tous ces projets-là. Et en fait, le point névralgique, c'est le poste de transformation à Saint-Victor-et-Manuvieux. Du coup, quand on a compris ça, on s'est dit, mais comment se situe la commune? Comment se situent les habitants par rapport à ce projet? En fait, il s'avère que en parallèle, là, donc le conseil municipal, les habitants ont créé une association qui s'appelle Plateau Survolté pour dénoncer la construction de ce poste de transformation. Donc en fait, c'est des énergies qui se sont retrouvées avec au milieu des paysans qui exploitent les terres qui sont concernées par le projet, donc deux paysans et deux propriétaires qui refusaient catégoriquement de céder ces terres à RTE et voulaient continuer à les exploiter, dont un jeune paysan qui s'installe et qui a besoin de ces terres-là pour s'installer et valider son installation.
Ensuite, donc derrière ça, vous vous êtes organisé, vous avez autant que vous avez pu par les moyens légaux tenter de contester ces construction, ces installations. Je crois que vous avez pas mal perdu au final.
Alors, tout n'est pas encore joué, mais en tout cas, en effet, tout ce qui avait pu être tenté juridiquement jusqu'à présent nous a pas donné gain de cause. Et donc, il reste encore des recours juridiques donc qui seront jugés dans un an et demi, deux ans, contre la déclaration d'utilité publique prise en juin dernier par Madame la Préfète. Donc voilà, le problème, c'est qu'on sait bien que si les travaux sont déjà commencés, eh ben ils vont pas demander à RTE de démonter ce qu'ils ont monté. Donc voilà, c'est là, d'où là l'enjeu de lutter physiquement sur le terrain. Et du coup, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc ces paysans-là, on a convenu ensemble, on s'était croisés, bah nous aussi, on est aussi des milieux. On est allé faire un tour à Notre-Dame-des-Landes, on est allé faire un tour à Sivens, et de là, on a rapporté l'expérience que peut-être, en montant des cabanes sur le site, ça allait permettre de faire reculer le RTE et pourquoi pas même d'endiguer complètement le projet. Donc il y a la première cabane, on l'a montée en 2015, donc sur des terres qui appartenaient aux paysans, hein, et petit à petit, comme les paysans se faisaient embêter, on a décidé d'acquérir en plein centre, donc en plein cœur du projet, une petite parcelle sur laquelle aujourd'hui il y a un hameau, hein, il y a trois cabanes avec un dortoir, des douches, une cuisine, une salle de réunion, une salle de concert. Et du coup, on a acquéri à 134 une parcelle en plein milieu là, et donc on a acquéri en indivision. Voilà, donc on est tous propriétaires et il faut qu'on soit tous d'accord. Donc autant vous dire qu'à 134, c'est quasi impossible.
Ouais. Et alors la propriété en France et pas qu'en France d'ailleurs, c'est là qu'on apprend que ça permet pas tout puisque l'État peut s'imposer au droit de propriété de chacun puisque vous avez reçu des avis d'expropriation et c'est un petit peu ça l'actualité. Vous allez être expulsé a priori prochainement.
Exactement, mais tout ça est enchaîné très vite. Donc comme je le disais, la DUP, déclaration d'utilité publique en juin, dans la DUP est contenue la cessibilité des terres à RTE. L'expropriation n'étant qu'une formalisation de cette cessibilité des terres. Donc là, on a reçu des offres d'RTE qui nous payaient, qui nous offraient un peu d'argent, plutôt pas mal, qu'on a tous refusé, tous,
d'accord,
l'ensemble des propriétaires. On a dit, nous, ces terres, elles sont pas à vendre, on refuse votre argent, on refuse de négocier avec vous, voilà, ces terres, elles sont pas à vendre. Et en effet, du coup, comme l'État a quand même octroyé des droits lui permettant de monter ses grandes infrastructures, on sera exproprié d'ici un mois, voilà, avec une venue du juge des expropriations le 26 septembre. Donc je vous invite à venir nous rejoindre aussi à cette occasion-là. Donc à la mairie de Saint-Victor, le rendez-vous est là-bas. Et qui, ce transport-là, ils appellent ça un transport, a pour objectif de fixer le montant des indemnités. Donc indemnités que l'on refusera et que du coup on consignera à la Caisse des dépôts et de consignation. On est tous d'accord là-dessus.
Alors cette personne qui va venir vous notifier cette expropriation, elle va venir seule ou accompagnée? Parce que ce combat que vous avez, c'est aussi un combat au sens presque pas physique du terme, mais je sais que vous avez fait, certains d'entre vous ont fait un petit tour à la gendarmerie ces derniers mois.
Oui.
Vous avez eu quelques soucis avec la justice, donc j'imagine que la personne qui viendra vous donner les avis d'expropriation, je peux comprendre qu'elle a un peu peur, elle viendra peut-être pas toute seule.
Je pense pas qu'elle viendra toute seule. Après, elle vient juste fixer les montant des indemnités, elle vient pas nous délivrer la ville d'expropriation. La ville d'expropriation, on aura un petit code qui nous sera envoyé, je crois, et il faudra qu'on le consulte sur internet pour savoir le montant qu'ils nous ont octroyé. Donc du coup, on va pas s'énerver sur l'ordinateur.
Du coup, c'est quoi un petit peu votre état d'esprit? Parce que quand l'État s'y met et puis que toutes les décisions, tous les recours légaux de votre côté sont quasiment terminés, l'État a donc ce droit de mettre de côté la propriété individuelle pour des infrastructures pour l'intérêt général, hein, comme il dit. Qu'est-ce qui vous reste comme recours? Est-ce que vous avez encore des recours ou c'est foutu?
C'est pas foutu, on a encore des recours qu'on peut gagner. Et nous, ce qui nous reste surtout, c'est la légitimité de notre combat, quoi. C'est-à-dire que nous, là, on était encore en réunion avec la mairie et les différentes composantes de la Luthière. On s'estime complètement légitime dans le refus de ce poste de transformation qui, en plus, n'a qu'un seul objectif, c'est d'envoyer l'électricité sur l'autoroute de l'électricité qui va de la Norvège ou la Suède jusqu'au Maroc. Enfin, à un moment donné, il va falloir qu'on se pose réellement des questions sur c'est quoi le schéma énergétique que nous voulons, c'est quoi la façon de générer l'énergie, est-ce que c'est un bien commun ou est-ce que c'est un bien privé qui ne sert que des intérêts privés? Moi, je pense que c'est un bien commun et je pense qu'il faut défendre cette posture-là. Donc, même si on gagne pas forcément sur la lutte, on aura au moins, j'espère, gagné un peu fait germer des graines dans la tête des gens en disant, mais posons-nous la question. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous voulons? Est-ce que l'énergie est un bien public? Et si oui, comment on le défend?
Attends, on va en parler un petit peu plus loin dans cette émission. Petite question, Notre-Dame-des-Landes, bon, on a vu carrément des affrontements, hein, entre les forces de l'ordre et puis ceux qui étaient installés sur le site. Vous êtes prêts à aller jusque-là?
On ira jusque-là.
D'accord.
On ira jusque-là.
Vous êtes combien?
Ça dépend des moments. On espère, le jour des expulsions, être entre 200 et 500. Voilà. Après, en effet, à Strasbourg, ils étaient à peu près 200 là, donc ils ont expulsé la ZAD de Strasbourg ces derniers jours.
Avec une députée européenne qui était lacrymogénisée.
Voilà, qui a été lacrymogée, des personnes en déambulateur aussi. Donc voilà, nous on a peut-être pas en plus ces soutiens là aussi forts, mais on a quand même les soutiens des élus de la commune. Mais on ira jusque là où on doit aller pour défendre nos terres. Et moi, je veux pas rentrer. Ça fait 4 ans, plus de 4 ans que on lutte tous les jours. C'est une lutte de tous les jours. C'est vraiment un grand travail. Ouais, venir jusqu'à Rodez. Mais c'est pas pour abandonner au moment donné où les gendarmes nous disent de partir, en tout cas pas sans se battre. Alors après, chacun fera en fonction. Il y en a juste qui refusent de bouger, il y en a qui s'en vont, il y en a qui jettent des cailloux. Chacun fera en fonction de ce qui semble légitime pour lui et de ce qu'il est prêt à porter et ce qu'il est prêt aussi à prendre comme répression derrière. Mais en tout cas, on essaiera d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut, de nos forces, c'est sûr.
Alors j'ai envie de vous dire, bon, vous êtes pour la protection de l'environnement, pour beaucoup. Bon, les éoliennes quand même, pourquoi être contre? Faut bien qu'elles soient quelque part, hein, à un moment donné.
Alors déjà, moi je parle des éoliennes industrielles et j'insiste sur ce mot-là, c'est-à-dire que je ne pense pas que on trouvera une solution environnementale dans une forme industrielle de quoi que ce soit. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas en train de faire une transition énergétique, on n'est pas en train de passer d'un mode qui serait un mode nucléaire, pétrole, à un mode qui serait énergie renouvelable. On est en train d'accumuler les différentes formes d'énergie. Donc on a à la fois du nucléaire, à la fois encore du pétrole, des énergies carbonées comme le bois, enfin qui restent des énergies carbonées, et on rajoute à ça les énergies renouvelables, donc dites renouvelables, voilà, donc que ce soit l'éolien. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui est magique avec les éoliennes industrielles, c'est qu'elles ont un coût environnemental gigantesque pour être construites. Alors on regarde que ça, que au niveau du carbone, mais en fait il faut regarder la pollution engendrée par l'extraction des métaux nécessaires à leur construction. L'aimant des éoliennes, c'est des aimants gigantesques. Pour les construire, c'est des centaines de kilos de terres rares qui sont extraits en Chine dans une vallée qui s'appelle la vallée du cancer. Enfin, c'est vraiment carnage. Mais par contre, quand ça arrive en France, on met un petit coup de peinture verte et puis non, mais en fait ça va être bon pour le climat. Oui, ben en fait regardons ce que ça nous a coûté pour le construire et regardons si vraiment, réellement, c'est rentablement écologique.
Donc vous, votre combat, c'est pas seulement contre une genre de pollution un peu visuelle ou de voisinage, c'est une démarche bien plus générale que ça.
Exactement. Pour nous, notre combat, c'est une démarche globale de questionner la politique globale de l'énergie. Qu'est-ce qu'on veut comme énergie, ce que je disais un peu tout à l'heure. Et est-ce que l'énergie, c'est un bien commun ou pas? Et puis, il y a aussi dans les éoliennes une question qui est à qui profitent réellement ces éoliennes. Aujourd'hui, ce sont des promoteurs privés. Le plus gros promoteur en France étant EDF, donc en fait le même qui fait les centrales, et avec des sous de l'État prélevés sur nos factures d'électricité qui permettent de payer un surcoût aux promoteurs pour le rachat de l'électricité. Enfin, tout ça, c'est juste des magouilles qui en fait continuent à enrichir des actionnaires et absolument pas ne cherchent à satisfaire les populations.
Il y a eu Notre-Dame-des-Landes, la ZAD, avec donc là le recul du gouvernement sur cette construction d'aéroport. Bon, on s'est dit là, le vent pour le coup, tourne un peu dans votre sens. Mais c'est vrai, vous l'avez évoqué à Strasbourg il y a quelques jours, il y a eu une ZAD qui a été évacuée. Là, c'était contre une construction de route, je crois. Votre cas du côté de Saint-Victor-et-Melvieux près de Millau, donc en Aveyron, est bien mal engagé puisque vous allez être exproprié globalement. C'est quoi votre état d'esprit?
Ben, du coup, après, ce qu'il faut savoir, c'est que la ZAD, c'est 40 ans de lutte. Le Larzac, nous, on s'inspire pas mal de ce qui s'est passé au Larzac. Le Larzac, c'est 40 ans de lutte. Nous, c'est 10 ans. 10 ans, c'est pas énorme. Et même si on n'arrive pas à gagner là, peut-être qu'on aura au moins gagné sur une réflexion globale déjà sur les éoliennes industrielles. Là, ça bouge, hein. Du côté, alors, c'est la droite qui bouge, hein. Bon, c'est peut-être pas mes tendances à moi, mais bon, tant mieux. Du coup, la droite est en train de bouger, de demander d'avoir, comment ils appellent ça, une sorte de référendum. Enfin, en tout cas, une discussion autour de la place de l'éolienne industrielle, parce que de plus en plus d'habitants, de plus en plus d'élus locaux, faut remonter que c'est catastrophique dans les zones rurales.
Alors là, on entend bien que vous n'êtes pas du tout découragé malgré la situation, puis l'urgence et cette menace d'expropriation. Vous êtes très mobilisé, vous personnellement Nelly, puis l'ambassade, les particuliers, les élus d'ailleurs qui vous soutiennent de la ville de Saint-Victor-et-Melvieu. Et donc, vous proposez encore des actions, de l'information ces prochaines semaines.
Exactement, on ne va pas s'arrêter là. Au contraire, on va amplifier la mobilisation. C'est bien l'objectif. Du coup, je peux le faire rapidement.
Le programme, ouais.
Du coup, on appelle à la fête du vin. Donc, c'est la quatrième édition de la fête
du vin. C'est sympa aussi. Oui, d'accord.
La fête du vent, bah justement, pour montrer qu'il y a peut-être d'autres choses à faire avec cette énergie, qu'utiliser l'énergie du vent, c'est loin d'être bête, hein. On est bien d'accord là-dessus. Par contre, c'est la façon dont c'est fait, la façon industrielle dont c'est fait qui nous pose question. Donc, c'est la quatrième édition de la fête du vent. C'est des concerts, du théâtre, des spectacles, des repas, des conférences, des plénières, des réunions aussi autour des luttes locales. Voilà.
Ça sera où et quand?
Ça sera du 21 au 23 septembre. Du coup, ça commence à 18h le 21, le vendredi soir. Et puis, on dit jusqu'au 23, mais en fait, on a pour objectif que ça ne se termine pas. Voilà. Et ça sera évidemment sur le lieu dit l'ambassade, du coup, la commune de Saint-Victor-et-Melvieux, plutôt proche du centre-ville de Saint-Victor. On peut pas le louper, il y a les petits panneaux.
D'accord, d'autres rendez-vous pour s'informer ou vous soutenir?
Exactement, donc nous il y a un rendez-vous, moi il y a un rendez-vous qui me tient particulièrement à cœur, parce que dans ces 4 années de lutte là où qu'on a pu penser ensemble, à se rencontrer, à croiser plein d'autres gens aussi, à faire venir des conférenciers, on s'est quand même posé la question sur, tiens c'est bizarre, il y a aussi les hôpitaux qui disparaissent, il y a aussi les écoles qui ferment les unes après les autres, il y a aussi plus de postes en fait, je peux plus aller à la poste à côté de chez moi, je peux plus acheter de la viande, même le pain je vais bientôt plus pouvoir en acheter. Et en fait, les zones rurales, elles sont en train de mourir, de vraiment mourir, alors ce qu'on appelle les zones vraiment très rurales, quoi. Et on se dit, mais comment ça se fait que l'État se désengage à ce point-là de ces zones qui ont quand même symbolisé pendant longtemps une richesse française? Et du coup, on s'est dit, mais en fait, peut-être que ce qui est en train de se jouer, c'est que plus ces zones seront vidées de leur population, plus il sera facile d'installer des infrastructures dont dépendent les métropoles, infrastructures qui sont difficilement compatibles avec la vie, donc type des charges, type des centres d'enfouissement de déchets nucléaires, type des aéroports, type des éoliennes, type voilà. Et type aussi des centres de loisirs sous bulle quand même, parce que les métropolitains, ils aiment bien pouvoir avoir des petits loisirs à la campagne. Voilà, donc c'est le cas à Roibon qui se bat pas mal là-dessus. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on arrive à se rassembler tous et à retrouver du sens commun pour en fait défendre nos territoires ruraux de manière générale. Donc que ce soit à Rodez, mais que ce soit dans le Tarn, que ce soit voilà dans les différents départements où vous pouvez nous écouter, c'est important qu'on retrouve du lien et qu'on arrive à se penser comme une force les zones rurales, parce qu'en fait l'État nous abandonne proprement et complètement pour nous laisser à la merci de promoteurs qui nous disent que la seule façon de sauver l'école, c'est d'accepter les éoliennes.
Comment on fait pour prendre peut-être plus d'informations, aller un petit peu plus loin sur vos sujets et puis vous soutenir, pourquoi pas? Vous avez un site internet, une page Facebook, comment ça fonctionne l'ambassade en particulier?
La page Facebook, on se la fait régulièrement fermer, donc je vais pas donner celle-là. On n'a pas le droit de dire tout dans les pages Facebook, alors ça nous embête un petit peu. Du coup, on a un blog, oui, donc c'est 12 en chiffres, comme notre département, 12, pas en chiffres, pardon, en lettres, excusez-moi. Mm-hmm. Donc 12 en lettres, .noblogs, avec un S. .org.
12.noblogs.org.
Voilà. Exactement. Et du coup, là-dessus, il y a tous nos rendez-vous, le programme, mais aussi, si vous vous posez des questions sur les éoliennes industrielles, il y a énormément de textes. On a fait un film aussi qui s'appelle Paresse nos arrestes. Vous le trouvez sur YouTube à La Transition pour les Nuls.
D'accord, voilà.
Qui explique un petit peu tout ce qu'on n'a pas eu le temps d'expliquer sur la question des éoliennes industrielles.
À suivre, tout autre univers, le Startup Challenge, une initiative de Rodez Aglo et de la CCI de Rodez. Et plus que 2 semaines pour se lancer. On voit ça dans le détail, juste après Beach Baby sur CFM Rodez 107.9. C'est le Mac sur CFM, deuxième partie consacrée au Startup Challenge, une initiative de Rhodes Agglo et de la CCI de Rhodes, un challenge plus qu'un concours. Monique Bultel-Hermand, vice-présidente de Rhodes Agglo.
C'est plus un concours, hein, c'est un Startup Challenge. Donc on est bien sur une motivation et une fédération des énergies qui crée ici sur notre territoire, mais aussi ailleurs, quel que soit l'âge du créateur et du futur candidat. C'est une idée d'abord innovante et qui ne s'est jamais faite ici. C'est un marathon de la création et de l'innovation. C'est vraiment ce que l'on veut créer. Donc il y a une date butoir qui est le 30 septembre pour déposer un dossier, un projet, qui peut s'articuler autour des appels à projets qu'a lancé la communauté d'agglomération du Grand Rodez, qui sont le tourisme, la dynamisation des centres-villes, l'économie circulaire ou tout autre thème, et qui va permettre aux créateurs de commencer à articuler un projet autour d'une idée. Voilà. Donc il va déposer son projet et après il aura du 12 au 14 octobre pour pouvoir, pendant 42 heures, peaufiner son dossier avec une équipe qui va se constituer au fil du temps et qui va permettre de déposer un projet qui va être récompensé, qui passera d'abord par le crible d'un jury professionnel, institutionnel et industriel aussi, puisqu'on aura Enedis qui sera à nos côtés pour ce jury. Parce qu'il faut penser à la genèse du projet, mais il faut aussi penser à ses débouchés commerciaux, parce que l'idée, c'est quand même bien de faire aboutir une entreprise pérenne, de lui permettre de se développer, de créer des emplois, de fédérer des énergies à son tour, et de créer de la richesse sur le territoire.
Donc c'est une forme de concours de jeu, mais c'est très sérieux.
Ah, c'est tout à fait sérieux, c'est plutôt ça tient plutôt du marathon, donc 42 heures plutôt que du jeu de la cour de récréation. Bien évidemment, c'est le développement économique, l'innovation dans tous les domaines, hein. C'est une affaire sérieuse, c'est une affaire sérieuse pour le porteur de projet, mais c'est une affaire sérieuse pour le territoire, pour le devenir d'un territoire.
Vous avez parlé de marathon parce que 42 heures, ça fait référence aux 42 kilomètres. Moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire c'est un sprint, hein, parce qu'on doit déposer les dossiers avant le 30 septembre, ensuite il y a des rendez-vous avec le jury 3 octobre et puis des remises des lauréats qui sont décernés d'ici l'automne, c'est un format court.
Alors, je pense qu'il y a énormément d'énergie créatrice qui est déjà dans les starting blocks ici sur notre territoire et qui était en fait un petit peu en attente de la mise en œuvre d'un projet qui réponde à ces besoins-là. Et donc, je pense qu'on est tout à fait en cohérence avec une demande qui est tout à fait émergente sur notre territoire. Il était temps, on essaye de faire les choses de manière extrêmement construite, mais en même temps, il faut qu'on soit agile, il faut qu'on aille vite, il faut qu'on soit innovant, nous aussi, institutions, et nos partenaires qui sont la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers, l'INU Champollion, l'IUT de Rodez, le Fab Lab, la MJC, tous ces gens-là qui sont déjà dans leur coin, soit sur le développement économique, soit sur le savoir-faire des métiers, soit sur l'éducation, tout simplement, l'enseignement supérieur, et puis le Fab Lab avec, on refait pas l'histoire du Fab Lab, qui est déjà une innovation depuis quelques années.
Bon bah, au starting block donc pour ce Startup Challenge, toutes les informations, les détails, les formulaires d'inscription sont à retrouver sur le web. Le site www.rhodesagglo.fr. C'est fini pour le Mac pour aujourd'hui. À demain, même heure. Bonne journée à tous sur CFM.